Alors à propos de Taïwan, est-ce que le contentieux qui existe entre la Chine et Taïwan pourrait mal tourner un jour ou l'autre?
Alors, Taïwan, c'est un contentieux assez ancien qui me semble actuellement en train de diminuer. La baudruche se dégonfle un peu. Je dis baudruche parce que certains ont eu intérêt et ont peut-être toujours intérêt à souffler dans cette baudruche et à présenter le problème plus épineux et plus crucial qu'il ne l'est réellement. La dernière crise, c'est 1995. Mais dès 1987, la Chine continentale, comme disent les Chinois, et Taïwan avaient réinitié un certain nombre de relations. Le but affiché de la Chine continentale, c'est une réunification à long terme, pacifique, en appliquant la théorie un pays, deux systèmes, comme on l'a déjà vu faire pour Hong Kong et pour Macao. J'ai interrogé à plusieurs reprises des Chinois, aussi bien taïwanais que chinois de Chine continentale, sur ce problème de Taïwan. J'ai été très surpris par la réponse qu'ils me faisaient, parce que ça donne une vision complètement différente de celle qu'on peut avoir dans les pays occidentaux lorsqu'on parle entre occidentaux de ce problème. Ces Chinois m'ont tous dit, nous sommes tous des descendants de Confucius. Ils m'ont dit ensuite, nos familles sont partagées entre ceux qui sont restés en Chine continentale, ceux qui sont à Taïwan. C'est un peu comme l'Allemagne du temps du mur, entre l'Allemagne de l'Est et la République fédérale, où il y avait des familles partagées, où certes les pays politiquement semblaient s'affronter, mais où le peuple en dessous n'avait pas du tout envie d'aller se battre contre la moitié de la famille qui était de l'autre côté du mur. Il faut noter également que depuis quelques années, il y a eu une reprise des liaisons aériennes, une reprise des relations entre les deux côtés du détroit de Taïwan. Les autorisations de voyage et de séjour sont accordées beaucoup plus facilement. Et, chose qui m'a également surpris, les Taïwanais sont respectés par les Chinois parce que quelquefois, comme nous disent les Chinois continentaux, ils sont plus Chinois que nous. Ils sont plus chinois que nous parce qu'ils sont restés plus attachés aux traditions, ils sont restés plus attachés à ce qui faisait le fond culturel de la Chine ancienne. En gros, ils n'ont pas eu à subir le coup de rabot du communisme qui a pas mal écorné la culture traditionnelle chinoise. Je ne prendrai qu'un exemple pour ce qui est de l'écriture chinoise. L'écriture simplifiée que le président Mao a voulu pour la Chine continentale dans les années, fin des années 50 et dans les années 60, qui est maintenant la façon quasi universelle d'écrire le mandarin, ben cette écriture simplifiée n'a pas été adaptée à Taïwan volontairement pour se démarquer du modèle communiste, et les Taïwanais continuent à écrire avec les signes chinois traditionnels tels qu'on les utilisait à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Il ne faut pas oublier non plus que la Chine continentale, dans le domaine économique, voit sa position s'améliorer d'année en année, de mois en mois, peut-être même de jour en jour, et que Taïwan, qui a connu un boom et un développement il y a quelques décennies, petit à petit se rapproche en niveau d'industrialisation, en niveau de relations commerciales et économiques avec l'étranger, les positions de Taïwan et de la Chine continentale tendent à se rapprocher. Comme les Chinois sont des commerçants et que tout le monde affiche que la recherche du profit, la recherche du développement est un objectif majeur, on peut dire que les deux courbes sont en train de se rapprocher. Espérons qu'elles vont se rejoindre un jour. Ça ne sera certainement pas tout de suite, mais à l'échéance de quelques décennies, peut-être une génération, deux générations, peut-être beaucoup plus vite, pourquoi pas. Ce problème, cette pomme de discorde entre les deux Chines, je ne pense pas qu'elle risque de dégénérer très rapidement. Les Chinois ne le souhaitent pas, ni les Chinois continentaux, ni les Chinois de Taïwan. Le meilleur moyen pour que cette situation dégénère, je regrette un peu cette formule de meilleur moyen, disons le moyen le plus probable pour assister à une dégradation de la situation, ça serait qu'une puissance extérieure vienne souffler sur les braises pour rallumer un feu qui est en train de s'éteindre et de s'étouffer petit à petit. Je souhaite que personne ne vienne souffler sur les braises de Taïwan. Ce sera le meilleur moyen de garder la stabilité de la zone Asie-Pacifique sur ce sujet. Dernier point que je souhaiterais mentionner, toujours le caractère passionnel de Taïwan dans l'âme et dans la culture chinoise. En 1624, Taïwan est devenue une colonie néerlandaise. Quelques décennies plus tard, il y a eu une révolte du peuple de Taïwan contre les colons néerlandais. Et en 1661, des troupes chinoises venues de Chine continentale ont débarqué à Taïwan pour soutenir ces indigènes, ces populations indigènes révoltées contre les colons néerlandais. Cette intervention, qui a été victorieuse d'ailleurs, puisque Taïwan est devenu chinois en 1683, et l'est resté jusqu'à la fin du XIXe siècle, où a été annexé par le Japon, cette intervention militaire chinoise au XVIIe siècle, disais-je, est restée un symbole de la lutte de la Chine contre les interventions et les invasions étrangères. Taïwan a un peu un rôle emblématique de la lutte de la Chine contre les colonisations et de la lutte de la Chine contre les invasions. Taïwan a été une colonie où les Chinois ont réussi à expulser les Néerlandais, alors que deux siècles après, ils ont subi des occupations françaises, anglaises, allemandes, américaines, russes, etc., etc. Taïwan est une possession chinoise qui a été envahie par le Japon et dont les Japonais ont été chassés à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que la vision occidentale a tendance souvent à sous-estimer un peu ce rôle emblématique de Taïwan pour l'âme chinoise.
Alors, quelle relation entretient l'Europe avec Taïwan et particulièrement la France ?
Taïwan a été et est toujours un solide partenaire commercial. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une trentaine d'années, beaucoup de produits importés dans les pays occidentaux et en France en particulier portait une petite étiquette « Made in Taiwan ». C'était devenu un peu une boutade, une plaisanterie à l'époque. Actuellement, c'est « Made in China », mais la logique est la même. Taïwan, la Chine, les Chines sont toujours de solides partenaires commerciaux. La France a reconnu la République populaire de Chine le 27 janvier 1964. Ça veut dire que, à la même époque, elle a cessé de reconnaître le gouvernement de Taïwan comme gouvernement officiel représentatif, je dirais, de l'entité chinoise. La Chine continentale n'a été admise à l'ONU qu'en 1971, mais actuellement, à ma connaissance, il n'y a que 23 pays sur les 190 et quelques figurants à l'ONU, il n'y a que 23 pays qui reconnaissent Taïwan comme étant le gouvernement représentant la Chine. La France n'a plus d'ambassade à Taïwan, et réciproquement, mais Taïwan entretient à Paris ce qu'on pourrait appeler un super consulat qui s'appelle le Bureau de représentation de Taipei en France, qui joue un rôle essentiel en matière de coopération dans les domaines scientifiques, dans le domaine industriel, dans le domaine commercial et dans le domaine culturel. Depuis une vingtaine d'années maintenant, parce que ça doit remonter à 1991, chaque année se tient une conférence franco-taïwanaise sur ces diverses coopérations. Les relations culturelles sont également très riches et très solides. Et le représentant de Taipei en France actuellement, qui est Monsieur Michel Lou, est très actif et très efficace dans ce domaine. C'est un homme passionnant, ouvert, sympathique, cultivé, parlant un français irréprochable, parce qu'il a fait des études universitaires en France, Mais beaucoup de Français étudiant le mandarin souhaiteraient un jour parler chinois comme Monsieur Lou est capable de parler français actuellement. Il est très francophile, il connaît très bien la France, la mentalité, l'état d'esprit de ses populations. Et je crois que la coopération actuelle entre la France et Taïwan est toujours à un bon niveau et que ça devrait se maintenir. Il n'y a aucune raison que ça change.
Quelles sont les menaces extérieures de la Chine?
À ses frontières, tout d'abord, il n'y a pas ou il n'y a plus de menaces. On pourrait parler encore de risques potentiels, je l'ai évoqué précédemment, avec des pays nucléaires émergents frontaliers de la Chine, mais il n'y a plus réellement de menaces extérieures. Il n'y a d'ailleurs pratiquement plus ou plus du tout de contentieux frontaliers. Depuis 1949, la Chine, qui a été impliquée dans 23 conflits frontaliers différents, s'est employée dans un premier temps, pendant les années 60, à conclure des traités avec les pays frontaliers avec lesquels c'était le plus facile. Ça a été l'Afghanistan, la Mongolie, la Corée, le Népal, la Birmanie, le Pakistan également. Il y a eu une deuxième vague de traités pour régler ces contentieux frontaliers dans les années 90. C'était les pays avec lesquels c'était moins facile. On a vu à ce moment-là des traités avec la Russie, le Vietnam, le Laos, les nouvelles républiques du Kazakhstan, du Kirghizistan et du Tadjikistan. Il y a même eu en 2000 un accord avec le Vietnam sur les contentieux dans le golfe du Tonkin. Tout n'est pas réglé, mais ça va également dans le sens de l'apaisement. Les seuls pays frontaliers avec lesquels la Chine n'a pas, à ma connaissance, encore conclu de traité sont l'Inde et le Bhoutan. Dans tous les cas, en cas de menace ou de divergence sur ses frontières, la Chine privilégie la négociation et ses expériences récentes l'inciteront certainement à continuer toujours en ce sens. Je rappelle qu'en 1991, avec l'URSS finissante ou la Russie naissante, la Chine, par la négociation et par le biais d'un traité, a obtenu 52% des territoires qui étaient contestés, qui étaient en compétition entre les deux pays. C'est un juste milieu acceptable qui la conforte dans son idée qu'il faut mieux négocier et traiter avec ses voisins que s'affronter militairement. Il n'y a donc pas réellement de menaces extérieures terrestres. Il y a certainement des risques et il pourrait y avoir des menaces extérieures maritimes sur les voies d'approvisionnement, sur le commerce chinois. Nous y reviendrons peut-être un peu plus tard. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus un certain nombre de menaces intérieures qui menacent la stabilité et la solidité du pays, donc sa capacité à se développer, à améliorer le niveau de vie de sa population. La Chine est confrontée à un certain nombre de bouleversements de ses valeurs traditionnelles. Place de la famille, respect des anciens, nouveau culte de l'argent, nouvelle organisation de la société, naissance de déséquilibres, par exemple, entre les villes et les campagnes, problèmes démographiques, la politique de l'enfant unique, c'est très bien, mais à terme, ça nous fait un pays peuplé essentiellement de populations âgées. Qui va payer les retraites? Qui va travailler pour le pays? Problème également d'ingérence extérieure, avérée ou supposée, mais qu'on ne peut pas totalement exclure parce qu'elles ont existé et que c'est quand même un des meilleurs moyens d'affaiblir la Chine. Alors la Chine est confrontée à un certain nombre de menaces. Je ne pense pas que ces menaces extérieures soient celles qui la préoccupent le plus actuellement. Et dans ces menaces extérieures, ce ne sont certainement pas des menaces terrestres et continentales, mais beaucoup plus des menaces maritimes.
Bon, on ne va pas s'étendre sur les menaces intérieures qui ont pour nom Tibet et Xinjiang, évidemment. Par contre, on a évoqué la marine, et alors j'imagine qu'elle occupe une place prépondérante dans la zone Asie-Pacifique, cette marine chinoise.
Alors, la marine chinoise occupe bien sûr une place prépondérante, je dirais, au niveau régional, mais ce n'est pas une place prépondérante en tant que grande marine mondiale. La marine chinoise a une place non négligeable, une place grandissante, mais elle est très loin derrière celle des États-Unis et de la Russie. Et à l'exception de la mer de Chine, qui est un peu son précaré, si on peut utiliser le terme précaré pour des bâtiments de la marine de la Chine est peut-être encore au même niveau, voire derrière celle de l'Inde. La marine de la Chine, c'est de l'ordre de 150 bâtiments armés et à peu près 250 bâtiments de transport et bâtiments auxiliaires. Elle se développe, elle se modernise. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas encore proportionnée au poids que la Chine occupe sur la scène internationale. On peut donc comprendre très facilement que la Chine fasse effort et cherche à développer cette marine. La marine chinoise, c'est 75 sous-marins, mais seulement 7 sous-marins nucléaires. A priori, je pense, 4 sous-marins d'attaque et 3 sous-marins lanceurs d'engins. C'est à peu près 75 frégates et destroyers, c'est 250 petits patrouilleurs, une cinquantaine de bâtiments de débarquement, 40 dragueurs de mines, 6 pétroliers ravitailleurs. C'est un petit chiffre, mais c'est nouveau, et je le souligne, parce que c'est ça qui conditionne la capacité de la Chine à s'engager loin de ses côtes, dans d'autres mers, dans d'autres régions du globe, en particulier dans l'océan Indien. Je souligne que la Chine n'a pas de porte-avions, qu'elle a très peu de sous-marins nucléaires d'attaque, et que ce sont ces deux constats qui permettent de dire qu'elle n'a pas un rôle prépondérant sur les mers du globe, mais qu'elle a simplement un rôle important et un rôle grandissant sur la zone Asie-Pacifique et océan Indien. Il faut également savoir que cette marine chinoise n'est pas aussi moderne que d'autres grandes marines du monde, et ça se voit à un chiffre qui est assez intéressant, c'est les effectifs d'un équipage de bâtiments chinois par rapport à un bâtiment équivalent occidental. Plus le bâtiment est automatisé, moins il y a besoin de monde. Le rapport entre l'effectif d'une frégate chinoise et l'effectif d'une frégate occidentale moderne, c'est le rapport de 1,5 à 1. Donc les Chinois ont une marine solide, ont une marine qui se renforce, mais ont une marine qui a encore des progrès technologiques et des modernisations à effectuer pour arriver réellement au niveau des autres grandes marines mondiales. Elle est capable de le faire. Elle le fera certainement, mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, c'est pour après-demain.
Alors, quels intérêts la Chine défend dans cette zone Asie-Pacifique?
Dans la zone Asie-Pacifique, la Chine est actuellement, je pense, et elle souhaite rester, la première puissance régionale. C'est à sa mesure, ça ne provoque pas d'hostilité ni de réaction excessive des autres pays, même si de temps en temps, visiblement, ça gêne et ça agace un peu certains concurrents, et ça gêne surtout des concurrents qui sont extérieurs à la zone Asie-Océan Indien. La Chine a des intérêts tout d'abord historiques et culturels. Le monde chinois, au sens très large, englobait autrefois la Mongolie, la Corée, le Japon, le Vietnam. Le fond culturel est en partie commun entre tous ces pays et la Chine tient à conserver, à défendre ce fond culturel sans pour ça, je pense, avoir quelque visée impérialiste que ce soit vis-à-vis des pays que j'ai cités. La Chine a des intérêts politiques. Elle cherche à diminuer les tensions. Elle recherche systématiquement le dialogue, en particulier avec l'Inde et le Japon, qui sont deux grands concurrents sur la zone. La Chine a surtout des intérêts économiques qui conditionnent sa survie en tant que grande puissance économique. La Chine a besoin de communications, en particulier de communications maritimes, pour son commerce, pour ses exportations et pour ses approvisionnements en ressources naturelles. 25% du trafic pétrolier mondial transite par la mer de Chine. C'est 3 fois plus que ce qui transite par le canal de Suez et 5 fois plus que ce qui transite par le canal de Panama. 80% des importations chinoises d'hydrocarbures transitent par le détroit de Malacca. La Chine a besoin de ces voies de communication maritime pour ses liaisons commerciales et en particulier pour ses approvisionnements avec toute la zone Afrique-Moyen-Orient. Si l'on prend les 15 plus grands ports du monde à l'heure actuelle, Sur ces 15 plus grands ports du monde, 12 sont en Extrême-Orient et 8 sont en Chine. Également, dans d'autres domaines auxquels on pense moins souvent, dans le domaine spatial, vous me direz quel rapport il peut y avoir entre la marine, les communications maritimes, la mer de Chine et l'espace. Eh bien, actuellement, c'est très simple, les sites de lancement de satellites chinois se situent dans le Gansu et dans le Sichuan, c'est-à-dire à l'intérieur des terres, assez loin même à l'intérieur des terres, et surtout assez loin de l'équateur. Or, des lois physiques simples démontrent que plus le site de lancement est proche de l'équateur, plus le lancement est économique. La Chine envisage donc de créer à côté de Hong Kong, à Wenchang, un nouveau site de tir spatial qui serait un peu le courroux de l'Union européenne, mais pour la Chine, un site qui est près de la mer et un site qui est plus près de l'équateur. Plus près de l'équateur parce que en énergie et en masse, en énergie nécessaire pour mettre une masse donnée sur orbite, c'est beaucoup plus économique, et plus près de la mer, parce que pour acheminer un certain nombre de composants et d'équipements, c'est plus pratique de les acheminer par bateau que les acheminer par chemin de fer ou par la route, dans des contrées un peu reculées et difficiles d'accès, au climat incertain, à l'intérieur de la Chine continentale. Donc, intérêt économique, intérêt politique, intérêt culturel, intérêt, je dirais, technologique avec le spatial, la Chine a de grands intérêts dans la zone Asie-Pacifique. Elle a également quelques territoires contestés. Les pescadors avec Taïwan, ça semble à peu près assez réglé. Et puis Taïwan, dans le fond, c'est peut-être aussi la Chine, donc ça vaut pas le coup de se battre avec Taïwan sur les pescadors. Si à terme on a dans l'idée une réunification, les pescadors seront dans, je dirais, dans le lot. Par contre, problème un peu plus crucial avec les îles Paracels avec le Vietnam, et surtout avec les Spratly en mer de Chine du Sud. Alors là, les Spratly, c'est un archipel assez surprenant, 750 îles, plus quelques milliers de cailloux ou bancs de sable qui apparaissent à marée basse en fonction des coefficients de marée. 45 seulement sont occupées, 45 sur 750, et elles sont revendiquées, les unes ou les autres, à la fois par la République populaire de Chine, par Taïwan, certaines par le Vietnam depuis 1973, d'autres par les Philippines depuis 1968, d'autres encore par la Malaisie ou par Brunei. Il y en a même qui étaient revendiqués par la France en 1933, quand la France était encore une puissance coloniale présente en Indochine, et au nom d'une espèce de continuité territoriale avec l'Indochine, la France revendiquait certaines îles. Bon, c'est plus d'actualité, bien entendu. Le Japon, lui, est également partie prenante dans ce contentieux, mais il a renoncé à toute prétention en 1951. Le cas du Vietnam est également intéressant. Quand il y avait deux Vietnam, un au nord et un au sud, le Vietnam nord était bien sûr totalement en accord avec les positions chinoises, le Vietnam sud était, pour les mêmes raisons, totalement en désaccord avec les positions chinoises. Maintenant qu'il n'y a plus qu'un seul Vietnam réunifié, le discours est un peu plus difficile à tenir. Il y a eu un contentieux, il semble momentanément apaisé, même s'il y a eu en 2007 et 2008, je crois, quelques poussées de fièvre liées à des possibilités d'exploitation de pétrole et de gaz naturel, en particulier avec la firme britannique British Petroleum et avec les Américains de Exxon.
We'll be right back.
Quelle réalité recouvre la jolie appellation de collier de perles ?
Alors, il faut s'interroger pour savoir qu'est-ce qu'il y a réellement derrière cette expression un peu exotique qui, à l'origine, si ce que j'ai lu sur Internet est juste, c'est souvent le cas d'ailleurs, c'est le nom d'un groupe de rock américain. Aucun rapport a priori avec la Chine. Et cette expression « collier de perles », qui est la traduction d'une expression équivalente en franglais, langue à la mode bien entendu, recouvre en réalité une série d'implantations portuaires chinoises dans un certain nombre de pays riverains des mers situés entre la mer de Chine et la péninsule arabique. Ça me semble être un peu un espèce de hochet que l'on agite volontiers quand on veut réveiller ou quand on veut susciter une crainte de l'impérialisme chinois. En réalité, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'installations portuaires essentiellement civiles, construites totalement ou partiellement par la Chine, dans quatre pays riverains, qui sont la Birmanie, le Pakistan, le Bangladesh et le Sri Lanka. On peut y rajouter quelques autres implantations, j'en connais au moins deux, qui sont des centres de transmission. Alors je reviendrai dans quelques instants sur ce qu'on appelle centre de transmission. Un installé sur territoire birman dans l'île Coco, et un autre plus récemment, je crois, à Madagascar. Alors ces centres de transmission, ce ne sont pas des stations téléphoniques ou des réémetteurs de réseaux de téléphone portables ou de faisceaux hertziens. C'est ce qu'en langage militaire français on appelle des DAT. En réalité, disons les choses clairement, ce sont des centres d'écoute et d'interception de communications électromagnétiques. Il n'y a rien de surprenant à ce que la Chine cherche à avoir des sites d'implantation pour ses écoutes électroniques sur ses zones d'intérêt et sur ses routes maritimes. Tous les pays le font, la France comme les autres. Et il n'y a rien de surprenant non plus. Il n'y a pas à s'offusquer ou à s'inquiéter de ce que la Chine se ménage des capacités portuaires et des capacités d'escale dans des pays qui sont le long de ses principales liaisons maritimes avec la zone Afrique-Moyen-Orient. À ma connaissance, il n'y a pas de présence militaire permanente, et en particulier il n'y a pas de présence navale permanente, il n'y a pas de base navale de la marine chinoise dans les pays ou dans les ports en question. Potentiellement, ce sont des facilités logistiques pour des escales, pour des approvisionnements, pour des réparations. C'est un signe de développement de l'influence chinoise. C'est surtout un signe de développement et d'augmentation de l'intérêt que la Chine porte à ses routes maritimes. Je n'y vois pas, personnellement, une menace particulière. On a pu lire également que la Chine cherchait à établir quelques contacts du côté des Maldives ou du côté des Seychelles, ce qui ne serait pas surprenant. Mais, à ma grande surprise, on intègre assez peu souvent à ce collier de perles une perle qui me semble quand même exister de façon évidente, c'est Singapour, qui est peuplée à plus de 50% par des Chinois, qui contrôlent ou qui est en mesure de contrôler de façon immédiate le détroit de Malacca, et qui mériterait, à mon sens, de faire partie de ces colliers de perles. Mais comme c'est un pays qui est, je dirais, dans l'orbite, dans la culture chinoise, ça semble peut-être moins choquant. Stratégiquement parlant, je pense que c'est aussi important que ce qu'on peut avoir au Sri Lanka ou au Bangladesh. Le but des différentes perles de ce collier de perles, eh bien, c'est à la fois d'assurer la sécurité et la facilité des liaisons maritimes entre la mer de Chine, l'océan Indien, le golfe Arabique. C'est également pour la Chine, c'est très clair si on regarde une planisphère ou un globe terrestre en mettant la Chine au centre du dispositif. C'est également un moyen de rompre une sorte d'encerclement maritime qui est bien compréhensible de la part des Chinois quand on regarde quelles sont les implantations étrangères, pas forcément amicales, existant en Corée du Sud, au Japon, à Taïwan, aux Philippines, à Diego Garcia, à quelques autres endroits, on peut comprendre que la Chine craigne un jour de se trouver un peu enfermée ou de se trouver contrainte dans cet espace où elle a ses intérêts stratégiques essentiels.
Si la Chine participe à nos côtés à la lutte contre les pirates en Somalie, c'est donc d'abord pour défendre ses intérêts stratégiques maritimes qu'on vient d'évoquer ?
C'est bien sûr pour défendre ses intérêts stratégiques maritimes. Officiellement, la décision du comité central et du président Hu Jintao et de la commission militaire centrale, c'est d'intervenir dans le cadre du maintien de la sécurité nationale et du maintien des intérêts de la Chine en matière de développement. La présence de la Chine dans l'océan Indien, au large des côtes de Somalie, c'est aussi pour tenir son rang sur la scène internationale, c'est aussi, certainement, pour tester et pour démontrer, pour afficher ces nouvelles capacités de projection et ces nouvelles capacités d'interopérabilité dans des opérations multinationales. La Chine est présente depuis maintenant largement plus d'un an sur la zone. Son rôle, c'est essentiellement un rôle d'escorte de convois et de bâtiments sensibles. C'est ainsi qu'à la fin du mois de février 2010, un convoi important de plus de 31 bâtiments appartenant à 14 pays différents a été escorté par la flotte chinoise dans le détroit de Bab el-Mandeb. C'était la 172e mission d'escorte des Chinois dans le cadre de l'opération qu'on appelle en France l'opération Atalante. Fin février également, à deux reprises, c'est un bâtiment chinois qui est allé récupérer un bateau grec qui avait été détourné par des pirates, c'était ça au mois de décembre. Ce bateau s'appelait le Navios Apollon et la marine chinoise a également récupéré au mois de février un pétrolier singapourien qui avait été détourné et arraisonné par des pirates. Si la marine chinoise est présente en océan Indien, c'est pour s'afficher, c'est pour qu'on parle d'elle, et ça marche bien. La preuve, je suis en train d'en parler dans votre micro.
C'est vrai, ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, comment fonctionne, à propos de fonctionner, le soft power chinois ?
Alors, le soft power, c'est du franglais que je n'aime pas beaucoup, surtout qu'on peut dire ça très simplement en français, avec l'expression « stratégie d'influence ». Maintenant, si pour être écouté, pour être entendu, il faut employer des termes anglo-saxons, pourquoi pas ? Mais vous me permettrez de ne plus employer ce terme dans la suite de mon propos et de parler de stratégie d'influence.
C'est parce qu'en fait, c'est plus à la mode.
Cette stratégie d'influence, ce soft power, c'est une invention américaine par opposition au hard power. Le hard power, c'est l'atteinte de ses objectifs par la coercition ou par l'incitation par des moyens économiques et financiers. La stratégie d'influence, je dirais, c'est un peu tout le reste. Ça repose sur la culture, sur la civilisation, sur les idées, sur la diplomatie, sur l'image qu'un pays peut donner de lui-même, sur la façon dont est perçue sa politique intérieure dans les pays étrangers. Cette stratégie d'influence, à notre époque, est bien sûr démultipliée par l'action des nouvelles techniques d'information. Et cette stratégie est très bien adaptée à des objectifs généraux et à des objectifs généraux à long terme. Dans ce domaine, la Chine se situe en bonne position. Bien qu'elle ait quelquefois des difficultés à communiquer avec des pays d'une autre culture et avec les pays occidentaux, la Chine a une telle richesse culturelle et historique et un tel dynamisme économique actuel que sa présence dans le cadre de la stratégie d'influence est incontestable. Il ne faut pas oublier non plus que la Chine a un élément qui joue énormément en sa faveur, en particulier dans les pays du tiers-monde. La Chine a toujours souhaité être un modèle pour les pays du tiers-monde et les pays en voie de développement. C'est que la Chine est une grande puissance qui n'a pas de passé colonialiste et qui n'a pas de passé impérialiste. Tout le monde ne peut pas dire la même chose. Également, la Chine est très bien aidée par le sentiment de patriotisme et de nationalisme qui anime toutes ces populations. Quand je dis ces populations, ce sont aussi bien les Chinois de Chine continentale que les Chinois de zones contestées, à réunifier éventuellement un jour, Taïwan, pour ne pas la nommer, et également tous les Chinois présents à l'étranger de la diaspora chinoise dans le monde. Pour un Chinois, et pas seulement pour un Chinois de la Chine communiste, le mot patriotisme et le mot nationalisme ne sont pas des gros mots, ce sont des mots totalement respectables et des concepts auxquels adhèrent tous les Chinois, où qu'ils soient dans le monde. Le résultat de cette stratégie d'influence, il est assez bon. Il n'est pas éclatant. Mais la Chine n'est pas isolée, n'est plus isolée. La Chine n'est pas exclue. Elle a plutôt une bonne image, je pense, dans les pays en voie de développement. Il lui est un peu plus difficile de se créer une bonne image dans les opinions publiques de pays comme la France, l'Allemagne ou le Japon. L'histoire a certainement son rôle à jouer dans ce domaine. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'en termes de stratégie d'influence dans ce domaine, la lutte entre la Chine et les États-Unis, pour moi, clairement, a déjà commencé. D'un côté, on a l'empire du Coca-Cola, du hot dog, du McDo, de la musique pop, des séries TV américaines auxquelles on peut difficilement échapper. De l'autre côté, on a une espèce de contre-offensive à base de restaurants asiatiques, à base de tai chi, c'est très à la mode, à base de feng shui, c'est très à la mode aussi. J'ai été surpris dans un certain nombre de salons de voir la richesse de la bibliographie en langue française sur le feng shui. Également, le rôle émergent actuellement du cinéma chinois, des artistes chinois dans le domaine des arts plastiques en particulier. Et n'oublions pas la place de la Chine dans le monde sportif, les Jeux Olympiques d'il y a 2 ans et l'exposition universelle de cette année. La Chine tire assez bien son épingle du jeu dans cette stratégie d'influence et l'environnement lui est assez favorable. La langue chinoise elle-même joue un rôle dans cette stratégie d'influence. Les instituts Confucius, qui sont un peu les équivalents de la langue française, mais pour la Chine, un peu partout dans le monde, ont vu leur nombre augmenter de plus de 1000 en 20 ans. En France, à l'origine, il y en avait 3. C'était Poitiers, Rennes et La Rochelle. Aujourd'hui, il y en a une 15. Le dernier à avoir vu le jour, à ma connaissance, étant à Saint-Denis de la Réunion. C'est une île de l'océan Indien. Est-ce un hasard? C'est une île où il y a une population chinoise immigrée non négligeable. Est-ce un hasard également? Toujours est-il que, entre les universités, d'autres centres culturels et Saint-Denis de la Réunion, actuellement, nous avons une 15 d'instituts Confucius en France. En termes de stratégie d'influence, dernière remarque, j'ai évoqué la rivalité dans ce domaine entre la Chine et les États-Unis. J'ai un peu l'impression qu'actuellement, l'affaiblissement de la position américaine, affaiblissement en termes d'influence, en particulier en Afrique et en Amérique du Sud, est de nature à créer certaines opportunités que la Chine, vraisemblablement, ne manquera pas d'exploiter.
Quelle est la position stratégique de la Chine par rapport à la Russie?
Alors je vais m'offrir un jeu de mots qui n'est pas de très bon goût, mais ça peut détendre un peu. C'est une politique de montagne russe avec des hauts et des bas. On est démarré très haut au moment de la proclamation de la République populaire dans les années 50, avec un traité d'amitié et une immense fraternité entre les prolétaires russes, les prolétaires chinois. Cette grande confraternité prolétarienne des pays communistes a atteint peut-être son apogée pendant la guerre de Corée de 1950 à 1953. Et puis on a vu apparaître un certain nombre de divergences. Et puis une rupture brusque avec la fin de l'aide soviétique et le départ un peu précipité de tous les conseillers techniques et tous les conseillers militaires. Et cette rupture brusque a fait beaucoup de mal à la Chine. Il y a eu ensuite des périodes de rafraîchissement, même de franc refroidissement, entre les relations, avec des incidents frontaliers assez violents. En 1969, sur l'Oussouri, à la frontière entre la Mandchourie et la partie orientale de la Sibérie. Et puis est intervenu, vers 1990, l'effondrement de l'État soviétique et du système soviétique, qui est concomitant avec le début de libéralisation et d'ouverture de la Chine au reste du monde. Faut-il y voir un rapport de cause à effet ? Peut-être. Je ne me sens pas suffisamment compétent et informé pour émettre une position claire et argumentée dans ce domaine. D'autres le feront beaucoup mieux que moi. Ce qui est certain, c'est qu'actuellement, la Chine et la Russie sont deux pays voisins, puissants, qui n'ont plus de contentieux et qui ont, pour chacun d'eux, intérêt à coopérer avec l'autre. Ils le savent très bien, ils le disent, et au début du mois de mars 2010, le ministre des Affaires étrangères chinois, M. Yang Jiechi, l'a très bien résumé dans une déclaration où il a dit, je le cite, « Le partenariat stratégique entre la Chine et la Russie peut être décrit comme un modèle de relations internationales entre grandes puissances. » Je pense que cette déclaration sera suivie au cours de l'année 2010 par un certain nombre de rencontres au sommet entre des présidents, des vice-présidents, des ministres de premier plan de chacun des deux pays, et qu'on devrait voir ce partenariat stratégique russo-chinois se maintenir et peut-être se développer dans les années à venir.
Est-ce qu'on peut imaginer à moyen terme une coopération militaire entre la France et la Chine ?
Oui, bien sûr. Pourquoi pas ? Mais la vraie question pour une coopération militaire mériterait d'être détaillée un peu de la façon suivante. Dans quel but souhaite-t-on coopérer ? À quel niveau souhaite-t-on coopérer ? Où et quand souhaite-t-on coopérer ? À la question « quand », on peut déjà apporter quelques éléments de réponse. Je dirais que j'ai l'impression que cette coopération a déjà commencé, qu'elle est en train de se développer. Elle n'atteint pas un niveau très remarquable pour le moment, mais l'évolution va dans le bon sens. Le nombre de visites d'autorités de haut niveau augmente. Comme on partait de pratiquement rien, c'est pas forcément très difficile, mais c'est quand même un signe. On a des échanges de stagiaires en école entre des académies et des écoles militaires françaises et chinoises qui n'existaient pas auparavant. Et puis surtout, dans le domaine maritime, toujours, on a des échanges et des coopérations entre la marine chinoise et la marine française qui méritent d'être soulignées. Il y a, je dirais, 2 ans à peu près, je n'ai pas la date exacte, le magazine de la marine Col Bleu, qui est le porte-parole de la marine nationale, dans la presse écrite, a fait une première de couverture sur une coopération avec la marine chinoise, et je pense que c'était une escale de bâtiments chinois. C'était ça il y a à peu près 2 ans. Depuis, le nombre d'escales des bâtiments français dans des ports chinois a continué à augmenter, en particulier en 2008. Ça avait été déjà le cas au dernier trimestre de l'année 2007. On a également quelques bâtiments chinois qui viennent faire escale dans des ports français. On a pu assister à quelques exercices bilatéraux, mais tout ça, c'est pas très facile. C'est pas très facile pour des raisons qui ne sont pas des raisons de principe ou des raisons politiques, mais qui sont des raisons tout simplement matérielles. La Chine, c'est loin. Une coopération avec un pays très éloigné, ça coûte cher. Est-ce que la France et la Chine ont chacune de leur côté des priorités qui justifient qu'on consacre une part importante du budget relations internationales à cette coopération? C'est certainement pas l'envie qui manque de part et d'autre, c'est plutôt les moyens. Et en particulier du côté français, je suis sûr que les moyens sont à coup sûr un facteur limitant. Il ne faut pas mésestimer non plus le problème de la langue. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de marins français qui parlent chinois. J'en connais au moins un. qui est lieutenant de vaisseau à Brest. J'espère pour lui qu'il aura un rôle à jouer dans cette coopération un jour ou l'autre, mais l'engouement de l'apprentissage du mandarin dans les écoles et dans les universités françaises, c'est quelque chose de récent. Il va falloir attendre encore quelques années pour avoir des responsables de la marine qui ont appris le chinois quand ils étaient au lycée. Actuellement, ce n'est pas le cas. En Chine, c'est un peu la même chose. Le français, la France et le français sont des pays aimés, respectés, même si de temps en temps il y a des petites poussées de fièvre et des divergences. Mais la première langue occidentale étudiée en Chine, c'est l'anglais. On devrait dire c'est l'américain d'ailleurs, mais c'est une grande force des États-Unis de faire appeler la langue qu'ils utilisent du nom de celle d'un autre pays. Ça permet de déguiser plus habilement le soft power américain. Je reviens donc à l'enseignement du français en Chine. Le français est, je crois, en deuxième place des langues occidentales, mais le français n'est pas plébiscité par les Chinois. Il est très souvent imposé aux Chinois. Les Chinois qui apprennent le français, très souvent, je dirais pas la plupart du temps, mais je le pense quand même grandement, ils n'ont pas choisi, ça leur a été imposé par une structure gouvernementale, parce que la Chine a besoin de cadres, de guides touristiques, de commerciaux, de diplomates qui parlent français.
Nous écoutions l'entretien que j'ai réalisé avec le général Michel Langlois à propos de la puissance militaire chinoise qui pose tant de questions aux Occidentaux. Je rappelle que depuis l'enregistrement de cet entretien en mars 2010, un nouveau livre blanc de la défense, le 7e, a été publié par le gouvernement chinois. Et puis bien sûr, l'armée populaire de libération est toujours la première armée du monde devant celle des États-Unis et de l'Inde. Mais il est aujourd'hui question de la possibilité de lever l'embargo sur les armes en direction de la Chine, qui a été imposé au lendemain de Tiananmen. La France est à la tête du mouvement. Je vous laisse deviner pourquoi.